Et la vie continua chez la veuve Dugrival. Soignée par son neveu, elle ne tarda pas à se remettre de sa blessure. Le matin, Gabriel l'installait dans un fauteuil de la salle à manger, près de la fenêtre, faisait le ménage et se rendait ensuite aux provisions. Il préparait le déjeuner sans même accepter l'aide de la concierge. Excédé par les enquêtes de la police et surtout par les demandes d'interview, la tante et le neveu ne recevaient personne. La concierge elle-même, dont les bavardages inquiétaient et fatiguaient Madame Dugrival, ne fut plus admise. Elle se rejetait sur Gabriel, l'apostrophant chaque fois qu'il passait devant la loge.
« Faites attention, monsieur Gabriel, on vous espionne tous les deux. Il y a des gens qui vous guettent. Tenez, encore hier soir, mon mari a surpris un type qui lorgnait vos fenêtres. »«
Bah, » répondit Gabriel, « c'est la police qui nous garde, tant mieux. » Or, un après-midi vers 4 heures, il y eut au bout de la rue une violente altercation entre deux marchands des quatre saisons. La concierge aussitôt s'éloigna de sa loge pour écouter les invectives que se lançaient les adversaires. Elle n'avait pas le dos tourné qu'un homme jeune, de taille moyenne, habillé de vêtements gris d'une coupe irréprochable, se glissa dans la maison et monta vivement l'escalier. Au troisième étage, il sonna. Son appel demeurant sans réponse, il sonna de nouveau. À la troisième fois, la porte s'ouvrit. « Madame Dugrival ?» demanda-t-il en retirant son chapeau. « Madame Dugrival est encore souffrante et ne peut recevoir personne, » riposta Gabriel qui se tenait dans l'antichambre. « Il est de toute nécessité que je lui parle. Je suis son neveu. Je pourrais peut-être lui communiquer... « Soit, » dit l'individu. « Veuillez dire à Madame Dugrival que, le hasard m'ayant fourni des renseignements précieux sur le vol dont elle a été victime, je désire examiner l'appartement et me rendre compte par moi-même de certains détails. Je suis très accoutumé à ces sortes d'enquêtes et mon intervention lui sera sûrement profitable. » Gabriel l'examina un moment, réfléchit et prononça « En ce cas, je suppose que ma tante consentira. Prenez la peine d'entrer. » Après avoir ouvert la porte de la salle à manger, il s'effaça, livrant passage à l'inconnu. Celui-ci marcha jusqu'au seuil, mais à l'instant même où il le franchissait, Gabriel leva le bras et, d'un geste brusque, le frappa d'un coup de poignard au-dessus de l'épaule droite. Un éclat de rire jaillit dans la salle.
« Touché !»
cria Madame Dugrival en s'élançant de son fauteuil.
« Bravo, Gabriel! Mais dis donc, tu ne l'as pas tué, le bandit ?»«
Je ne crois pas, ma tante. La lame est fine, et j'ai retenu mon coup. »
L'homme chancelait, les mains en avant, le visage d'une pâleur mortelle.
« Imbécile !» ricana la veuve. « Tu es tombé dans le piège !» « Pas malheureux. Il y a assez longtemps qu'on t'attendait ici. Allons, mon bonhomme, dégringole. Ah, ça t'embête, hein? Il faut bien, cependant. Parfait. Un genou à terre d'abord, devant la patronne. Et puis l'autre genou. Ah, ce qu'on est bien éduqué. Patatras, voilà qu'on s'écroule. Ah, Jésus-Dieu, si mon pauvre Dugrival pouvait le voir ainsi. Et maintenant, Gabriel, à la besogne. »
Elle gagna sa chambre et ouvrit le battant d'une armoire à glace où des robes étaient pendues. Les ayant écartées, elle poussa un autre battant qui formait le fond de l'armoire et qui dégagea l'entrée d'une pièce située dans la maison voisine.
« Aide-moi à le porter, Gabriel, et tu le soigneras de ton mieux, hein? Pour l'instant, il vaut son pesant d'or, l'artiste !»
Un matin, le blessé reprit un peu conscience. Il souleva les paupières et regarda autour de lui. Il était couché dans une pièce plus grande que celle où il avait été frappé, une pièce garnie de quelques meubles et munie de rideaux épais qui voilaient les fenêtres du haut en bas. Cependant, il y avait assez de lumière pour qu'il pût voir près de lui, assis sur une chaise et l'observant, le jeune Gabriel Dugrival.
« Ah, c'est toi, le gosse !»
À tous mes compliments, mon petit. Tu as le poignard sûr et délicat.
Et il se rendormit. Ce jour-là et les jours qui suivirent, il se réveilla plusieurs fois, et chaque fois il apercevait la figure pâle de l'adolescent, ses lèvres minces, ses yeux noirs d'une expression si dure.
« Tu me fais peur. Si tu as juré de m'exécuter, ne te gêne pas. Mais rigole, l'idée de la mort m'a toujours semblé la chose du monde la plus cocasse. Tandis qu'avec toi, mon vieux, ça devient macabre. Bonsoir, j'aime mieux faire dodo. »
Pourtant, Gabriel, obéissant aux ordres de Madame Dugrival, lui prodiguait des soins attentifs. Le malade n'avait presque plus de fièvre et commençait à s'alimenter de lait et de bouillon. Il reprenait quelques forces et plaisantait.
« À quand la première sortie du convalescent? La petite voiture est prête ?»«
Mais rigole donc, animal! Tu as l'air d'un saule pleureur qui va commettre un crime.
Allons, une risette à papa !»
Un jour, en s'éveillant, il eut une impression de gêne fort désagréable. Après quelques efforts, il s'aperçut que pendant son sommeil, on lui avait attaché les jambes, le buste et les bras au fer du lit, et cela par de fines cordelettes d'acier qui lui entraient dans la chair au moindre mouvement.
« Ah !» dit-il à son gardien. « Cette fois, c'est le grand jeu. Le poulet va être saigné. Est-ce toi qui m'opères, l'ange Gabriel ? En ce cas, mon vieux, que ton rasoir soit bien propre. Service antiseptique, s'il vous plaît. »
Mais il fut interrompu par le bruit d'une serrure qui grince. La porte en face de lui s'ouvrit et Madame Dugrival apparut. Lentement, elle s'approcha, prit une chaise et sortit de sa poche un revolver qu'elle arma et qu'elle déposa sur la table de nuit.
Oh, on se croirait à l'ambigu. Quatrième acte, le jugement du traître. Et c'est le beau sexe qui exécute. La main des grâces. Quel honneur, Madame Dugrival, je compte sur vous pour ne pas me défigurer.
Tais-toi, Lupin.
Ah, vous savez, bigre, on a du flair.
Tais-toi, Lupin.
Il y avait dans le son de sa voix quelque chose de solennel qui impressionna le captif et le contraignit au silence. Il observa l'un après l'autre ses deux geôliers, les traits bouffis. Le teint rouge de Madame Dugrival contrastait avec le visage délicat de son neveu, mais tous deux avaient le même air de résolution implacable. La veuve se pencha et lui dit
« Es-tu prêt à répondre à mes questions ?»«
Pourquoi pas ?»«
Alors écoute-moi bien. »«
Je suis tout oreille. » »«
Comment as-tu su que Dugrival portait tout son argent dans sa poche ?»
Un bavardage de domestique.
Un petit domestique qui a servi chez moi, n'est-ce pas?
Oui.
Et c'est toi qui as d'abord volé la montre de Dugrival pour la lui rendre ensuite et lui inspirer confiance.
Oui.
Elle réprima un mouvement de rage.
Imbécile! Mais oui, imbécile! Comment? Tu dépouilles mon homme, tu l'accules à se tuer et au lieu de ficher le camp à l'autre bout du monde et de te cacher... Tu continues à faire le lupin en plein Paris. Tu ne te rappelais donc plus que j'avais juré sur la tête même du mort de retrouver l'assassin?
C'est cela qui m'épate. Pourquoi m'avoir soupçonné?
Pourquoi? Mais c'est toi-même qui t'es vendu.
Moi?
Évidemment, les 50 000 francs.
Eh bien quoi? Un cadeau?
Oui, un cadeau que tu donnes l'ordre par télégramme de m'envoyer pour faire croire que tu étais en Amérique le jour des courses. Un cadeau, la bonne blague. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que ça te tracassait l'idée de ce pauvre type que tu avais assassiné. Alors tu as restitué l'argent à la veuve, ouvertement, bien entendu, parce qu'il y a la galerie et qu'il faut toujours que tu fasses du battage, comme un cabotin que tu es. À merveille! Seulement, mon bonhomme, dans ce cas, il ne fallait pas qu'on me remette les billets même volés à Dugrival. Eh oui, triple idiot, cela même et pas d'autre. Nous avions les numéros, Dugrival et moi, et tu es assez stupide pour m'adresser le paquet. Comprends-tu ta bêtise maintenant ?
La gaffe est gentille. Je n'en suis pas responsable. J'avais donné d'autres ordres. Mais tout de même, je ne peux m'en prendre qu'à moi.